Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Cher Matteo Caranta, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez comme chaque dimanche une madeleine aux alentours de 12h15. Avec qui donc ce midi?
Avec le pianiste Bertrand Chamaillot qui m'a reçu chez lui et c'est une madeleine sucrée.
Et pour notre plat du jour, zoom sur la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Il avait croqué une poignée de grains de café, depuis il était très 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 énervé. Il n'arrêtait plus de trotter à travers les rues, il n'arrêtait plus de chanter comme un perdu. Aïe 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 aïe, aïe grains de café.
What else?
Et oui, on a tendance à l'engloutir rapidement le matin au réveil, sur les zincs des comptoirs ou à une table de travail. Mais que sait-on du café que l'on boit, de ses origines, de la façon dont il a été récolté? Est-on capable de détecter ses arômes, les notes de fruits rouges, d'épices, de caramel, de chocolat ou même de pain? Depuis quelques années, le café vit une petite révolution portée par une nouvelle génération d'artisans bien décidés à faire du petit noir un mets d'exception. Comme le sommelier guide et aiguise le goût des amateurs de bon vin, on peut désormais apprendre à déguster le café en commençant par en comprendre le processus de fabrication et c'est ce que nous allons essayer de nous efforcer de faire au cours de cette petite demi-heure à travers le portrait d'une torréfactrice. Anne Caron, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes propriétaire de la maison Caron. Vous avez été sacrée meilleure torréfactrice de France en 2017 et vous venez de faire paraître un livre dans lequel on apprend tout sur le café. Informations, dessins et schémas à l'appui. Il s'intitule Cafégraphie et il a été édité chez Hachette. On entendait les petites chansons là. Ça énerve, ça réveille le café, c'est vrai ça ou c'est des idées reçues?
Ça énerve, ça réveille, ça relaxe aussi en fait. Tout au long de la journée, le café est là pour rythmer nos instants. Donc l'instant du matin où il est là pour réveiller, mais aussi les pauses où il est là pour relaxer, partager. Il est aussi là en fin de repas, pourquoi? Pour digérer. Et de temps en temps, il est là pour nous réveiller aussi.
Oui, on n'en prend pas trop tard quand même, hein, parce que ça éveille un peu plus qu'il ne faudrait en fin de journée, disons.
Ça dépend un petit
point
peu.
Point trop n'en faut, disons.
Point trop n'en faut, moi j'en bois beaucoup, donc j'arrête après 14 heures, puisque sinon j'en boirais beaucoup trop. Mais il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la caféine et qui vont plus ou moins bien supporter la caféine, parce que le principe actif qui nous maintient éveillés, c'est la caféine. Donc on peut dire que la population est divisée en deux. Il y a des gens qui sont très sensibles à la caféine et effectivement, dans ce cas, la tasse de café en trop va les réveiller. Et il y a des gens qui sont complètement insensibles à la caféine comme moi et je peux boire 20 cafés par jour sans aucun problème.
Oui, mais vous, Anne Caron, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite aussi.
Oui, c'est un peu comme dans une marmite, ça c'est clair.
Votre père déjà était torréfacteur. Il avait d'ailleurs été meilleur torréfacteur un peu avant vous, en 2011. Mais vous avez repris les rênes de la maison Caron, qui était la maison de votre papa.
Tout à fait. Mes parents ont créé cette société en 1974 et naturellement, j'ai repris la suite en 2005, mais mon père avait gardé un petit peu la torréfaction sous son aile. Alors, je m'y étais beaucoup intéressée, je participais beaucoup, puisque j'ai une formation de scientifique et de biologiste. Donc, autant vous dire que le monde du café m'intriguait et j'ai partagé à ce côté sa passion du café, parce que c'est un monde passionnant. Et j'ai repris petit à petit la torréfaction. Et la meilleure façon pour moi de rentrer dans le sujet, c'était de passer ce concours, le concours de meilleur torréfacteur, puisque je me suis dit que ça c'était certainement la meilleure façon d'être au top de la connaissance et au top de ce que je pouvais apporter à la torréfaction.
Vous aviez composé un café, composé lui-même de deux cafés, un café d'Éthiopie. C'était deux mochas différents.
Puisque deux mochas d'Éthiopie différents, puisque dans l'une de ces épreuves, il faut composer un assemblage et le torréfier. Et j'avais composé un assemblage à base de deux cafés d'Éthiopie que j'ai appelé après le V-Queen en hommage aux Normands. puisque mon père était normand. Donc Viking, c'est un petit jeu de mots.
Mais ça, composer un assemblage, ça n'est pas un blasphème dans le monde du café, les assemblages, les blindes, comme on dit, Anne Caron?
C'est en fonction des torréfacteurs, chacun a ses propres convictions. Mon père, et je partage ses convictions puisque je ne suis pas issue de rien, je suis issue de la religion de mon père, on va dire, en matière de café. Certains sont des puristes et veulent aller vers des origines pures, et certains, comme mon père, considéraient que la tasse parfaite, c'était un assemblage de plusieurs cafés où chacun va apporter quelque chose à la tasse finale. Ils considéraient que pour avoir une tasse parfaite, ça ne pouvait être qu'un assemblage. Mais on peut concilier les deux, c'est de se dire que c'est un assemblage d'origine parfaite. Donc, c'est pour moi, l'art de l'assemblage fait partie du métier de torréfacteur, et ce qui n'empêche d'aller sélectionner aussi des origines pures.
C'est quoi une origine parfaite, pure ?
C'est en fait, dans le monde du café, le pire côtoie le meilleur. Et quand vous allez, par exemple, dans des pays comme le Guatemala, comme l'Éthiopie, des pays qui vivent du café et où sont cultivés toutes sortes de cafés, si je vous dis que le café vient du Guatemala, c'est comme si je vous disais que je choisis un vin qui vient de France. Ça n'a pas de sens. Donc mon rôle et mon métier de torréfacteur, c'est d'aller chercher au Guatemala ce que je recherche au niveau du café, de la qualité gustative. Il y a aussi de l'éthique derrière. Il n'y a pas seulement la qualité gustative, c'est aller chercher le producteur qui travaille dans une éthique, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit au niveau du développement durable et de l'impact qu'il a sur l'environnement, et d'aller à sa rencontre, en fait. Donc, mon métier de torréfacteur, c'est de sélectionner cette origine au sein d'une origine plus grande, en fait.
À l'origine, il y a le producteur, mais si on remonte encore à la source, à Anne Caron, il y a bien sûr le caféier lui-même, c'est-à-dire la plante qui produit le grain de café à l'intérieur de laquelle se trouve la cerise du café. Comment choisissez-vous la cerise, puisque c'est à partir de la cerise, me semble-t-il, que vous travaillez?
C'est vrai qu'on oublie souvent que le café pousse à la base dans un arbre, et c'est même plus un arbuste qu'un arbre, qui pousse normalement à l'état sauvage, à l'ombre des grands arbres. Et plutôt en hauteur pour les arabicas, plutôt en hauteur et en pleine pour les robustas. Donc je travaille plutôt les arabicas, même je travaille quasiment qu'à 100% des arabicas.
Petite parenthèse, on reviendra bien sûr sur le choix de la cerise. Quelle est la différence entre arabica et robusta?
Ce sont deux sous-espèces différentes de caféiers. Et en fait, l'un a été sélectionné parce qu'il est cultivable en pleine et, comme son nom l'indique, plus robuste. Donc ça va donner des cafés qui sont plus robustes, mais aussi plus robustes en goût, donc plus terreux. Et les arabicas ont une complexité aromatique qui est beaucoup plus poussés en fait, et qu'ils vont plus pousser en altitude. Donc ces deux espèces cohabitent, et aujourd'hui on a aussi de très bons robustas, mais qu'on va aller chercher plus en altitude et sur des process différents.
Donc vous allez en altitude chercher vos arabicas, et revenons donc à cette cerise.
Cette cerise, avant d'arriver dans les mains du torréfacteur, avant que le grain vert arrive, elle a suivi un long voyage. D'abord, elle a été cueillie souvent à la main, ou au moins par une récolte sélective. C'est qu'on va récolter uniquement les cerises les plus mûres, car c'est un peu partout pareil en agriculture. Seules les cerises mûres et parfaitement mûres, ni trop ni trop peu, donneront les bons cafés. Ensuite, les premières étapes consistent à séparer le fruit du grain. Et là, c'est ce qu'on appelle le process. Donc, comment je sépare le fruit du grain? Il y a deux grandes méthodes. La première méthode...
Vous le montrez très bien avec les dessins
tout
à l'appui dans le livre.
Tout à fait. La première méthode, c'est juste laisser sécher la cerise. La chair se rétracte et après, on décortique et on libère le grain de café vert. La deuxième grande méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode lavée, où le café, on va débarrasser le grain de café de la chair de la cerise, on va le laver et après on va mettre à sécher. Ça va donner les cafés lavés. Ces deux grandes méthodes, après entre ces méthodes, il y a des méthodes hybrides, ça va simplement donner des goûts différents.
Énorme question à vous poser derrière, du coup, Anne Caron. Qu'est-ce qui fait un bon café?
Il y a plein de choses qui font un bon café. On vient de parler du pays producteur, il y a énormément de choses qui se passent dans le pays producteur. Et le café, finalement, avant d'arriver dans votre tasse, c'est l'un des seuls produits qui, à chaque fois, à chacune des étapes, a touché la main de l'homme. En pays producteur, on a parlé de la récolte, du process. Pendant toutes ces étapes, il y a énormément de tri pour trier les meilleurs cafés, des cafés moins bons qui vont être destinés à une consommation plus industrielle. Ensuite, nous, en tant que torréfacteurs, il nous arrive ce grain cru. Donc, on l'a sélectionné, on a choisi les meilleurs, on est remonté à l'origine. On a travaillé souvent avec le producteur, on a été voir le producteur, on a construit un lien dans la durabilité. Le café nous arrive avec un potentiel aromatique, il faut le cuire. Et c'est comme toute cuisson. Une cuisson, c'est magique. D'un petit grain de café vert qui est vert, qui a très peu d'odeur, ou une odeur qui est plus proche de la chlorophylle, on va obtenir ce grain de café torréfié que vous pourrez retrouver dans vos paquets de café, qui va avoir toute cette complexité aromatique qu'on aura choisie, parce que c'est une vraie signature. Comme c'est une cuisson, c'est une vraie signature. Tout au long de la torréfaction, on choisit degré par degré et on prend la décision pour savoir comment on va faire évoluer le goût de notre café. Donc il y a une vraie signature.
Oui, vous parlez de signature, Anne Caron. On pourrait parler d'un café d'auteur. En fait, dans votre monde, on parle de café de spécialité. Le café de spécialité ne représente que 2% du marché français. Je crois que c'est à peine 6% du marché mondial, c'est-à-dire assez peu. Le café de spécialité, ben, c'est ce que vous faites, par exemple, avec un grand cru qui est composé de 4 Arabica issus de 4 pays différents, le Guatemala, le Nicaragua, le Brésil et l'Éthiopie.
Tout à fait. En fait, mon assemblage, le café Caron, c'est un assemblage de café de spécialité. Et qu'est-ce qu'un café de spécialité? C'est un système de notation qui permet de noter la qualité organoleptique du café. C'est un système de notation sur 10 attributs. Ça va être la sucrosité, la longueur en bouche, la complexité aromatique, à l'odeur, les arômes. Et en fait, à partir de là, on établit une note qui va de 0 à 100 et sur un protocole très strict. Et pourquoi ce protocole est très strict? Parce qu'on doit noter exclusivement la qualité du café. Et où qu'on soit dans le monde. C'est-à-dire qu'on va établir exactement le même protocole qu'on soit en Éthiopie, en Colombie, en France ou aux États-Unis. Et ce café, objectivement, aura une note qui sera entre 0 et 100. Et à partir de 80%, on rentre dans cette catégorie qu'on appelle les cafés de spécialité. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de différencier par la qualité certains lots de café.
Il a des notes chiffrées, votre café de spécialité, mais il a des notes aromatiques, des notes d'épices, de pain brioché et de chocolat, Anne Caron. Je voudrais juste qu'on arrive à des problématiques qui sont des problématiques d'aujourd'hui, puisque on parle d'un boom du café en grains, fraîchement moulu, ça c'est très important, comme si on assistait aujourd'hui, après des années de capsules, disons, à un retour à l'authentique, comme si c'était plutôt récent qu'on se souciait autant du goût du café. Et vous, vous nous dites dans votre cafégraphie que c'est Nespresso, paradoxalement, qui a redonné ses lettres de noblesse au café. Expliquez-nous ce paradoxe.
Bien sûr, avant l'arrivée de cet industriel, en fait, on subissait le café. Et Nespresso a eu l'intelligence de positionner le café à sa juste valeur et le positionner comme un produit précieux dans ses petites capsules avec un circuit de distribution qui était en dehors des circuits de distribution classiques et a commencé à parler du café. Ça a éveillé certainement la curiosité des gens. Ça a aussi impliqué une autre chose, c'est que les gens étaient prêts à dépenser plus d'argent. Donc dépenser plus d'argent parce que le process de la capsule est plus coûteux. Mais ce qui fait finalement pour des grands buveurs de café comme moi, je vous laisse faire le calcul à 10-20 cafés par jour, ça devient extrêmement cher. Alors que si j'enlève cette capsule et je reviens au café gras, j'ai la même qualité de café, voire une qualité supérieure, puisque je peux aller chez l'artisan, chez le torréfacteur du coin.
Éloge du café grain. Malgré tout, on a pu lire ici ou là que le café, Anne Caron, était menacé. On a pu lire des articles qui s'intitulent « La fin du café ». On dit même que le café Arabica pourrait disparaître d'ici 2080. Qu'est-ce qui menace le café aujourd'hui?
Il y a des enjeux de changement climatique. Les Arabica poussent en altitude. Ils ont besoin d'une certaine alternance jour-nuit par la température. Et avec le réchauffement climatique, les caféiculteurs sont confrontés à plusieurs choses. C'est l'arrivée de nuisibles qu'ils n'avaient pas, notamment la rouille en Amérique du Sud et les problèmes sur la maturation des cerises. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs axes de recherche, hein, puisque il faut savoir que tout ce qui est produit en café est vendu. Donc l'offre correspond à la demande. Donc un déficit en production, ça aurait des conséquences assez graves sur notre filière. Donc il y a plusieurs axes de recherche, donc la recherche de nouveaux territoires, mais aussi de la sélection de plantes qui sont plus résistantes à ces nouvelles conditions climatiques.
On va écouter la madeleine, Anne Caron, mais juste avant cette madeleine, comme vous le faites dans votre cafégraphie, votre ouvrage paru chez Hachette, j'aimerais bien vous poser quelques questions auxquelles vous pourrez répondre en vrai ou faux, disons assez rapidement. Alors, il paraît que la star du café, c'est l'expresso et que le meilleur, c'est l'italien. Vrai ou faux?
Alors, la star du café, l'expresso, dans beaucoup d'esprits, mais en fait, la star du café, c'est le café filtre, surtout. C'est les gens
contrairement à une idée reçue.
Bien sûr, les gens consomment beaucoup plus de café en filtre qu'en expresso.
Mais il est bon, parce qu'une idée reçue veut que le café filtre soit du jus de chaussette. Non.
Tout dépend de la cafetière et tout dépend du café.
Le déca, c'est toujours mauvais?
Le déca, il faut savoir le sélectionner. Il y a des très très bons décaféinés vendus par des torréfacteurs où on travaille à la base avec un bon grain de café vert et avec un processus de décaféination qui se déroule sur le café vert, qui ne traumatise pas le café et qui est fait à l'eau et au CO2.
On conserve le café au frigo ?
Ça, c'est ce qu'on conseillait il y a 20 ans. Maintenant, on dit qu'on le conserve plutôt à l'air libre et quand on n'en consomme pas beaucoup au congélateur.
De plus en plus, Anne Caron, on apporte un verre d'eau quand on boit un café dans un café ou dans un restaurant. Pour quelle raison ?
C'est souvent pour masquer les mauvais goûts.
Allez, on vous retrouve juste après la Madeleine de Matteo Caranta. Vous écoutez les bonnes choses sur France Culture.
Vincent et moi, on se serait contentés de n'importe quel lyophilisé. Pas vrai ? Et Jimmy nous sort l'arabica des grands jours.
Alors, c'est pas un tiramisu aujourd'hui, Matteo ?
Non, ce n'est pas un tiramisu, mais ça m'interroge votre question du café et du verre d'eau, puisque justement, j'ai été chez Bertrand Chamaillou, qui m'a reçu chez lui, qui m'a offert un café et un verre d'eau. Et nous nous sommes installés dans la pièce insonorisée où trône son piano à queue avec lequel il a l'habitude d'enregistrer ses disques. Et en ce mois pluvieux, eh bien, le pianiste publie Good Night chez Warner, un album de berceuses du répertoire classique de Chopin à nos jours, où se côtoient Liszt, Villa-Lobos ou Janáček, des berceuses qui sonnent comme un réconfort dans ce moment délicat, à la frontière de l'éveil et du rêve, l'interstice universel de l'endormissement, selon les mots du pianiste. Mais revenons à la Madeleine, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, Bertrand Chamaillou m'a parlé d'un dessert qui le berce presque autant qu'un leader de Brahms.
Alors, ma Madeleine, c'est une recette de semoule au chocolat. C'est ma maman qui avait cuisiné ça d'après un livre de recettes, d'ailleurs je ne sais pas lequel, quand on était petit avec mon frère. Et avec mon frère, on a développé une espèce d'addiction à ce dessert qui est devenu un dessert culte dans la famille. C'était un peu la fête, quoi, pour les enfants. Certaines soirées où on avait ça, bon, c'était la réjouissance ultime. En plus, comme c'est une recette très simple, elle nous a très tôt initié à la faire. Moi qui adore faire la cuisine aujourd'hui, c'est la première recette que j'ai jamais fait. La base, c'est clairement un lait qu'on fait bouillir dans lequel on fait fondre du chocolat. Et l'addition principale, je ne sais plus s'il y avait un peu de beurre ou pas, mais je ne crois pas, parce qu'il y a déjà quand même le lait qui était assez riche. Peut-être un peu de sucre quand même. À la fin, c'était quand même la semoule qui venait figer la texture. Et je fais plutôt du salé aujourd'hui. Mais effectivement, je me souviens très bien à chaque fois comment on faisait bouillir le lait qui était à deux doigts de déborder, qu'on baissait le gaz, qu'on mettait le chocolat à fondre dedans, etc. Puis qu'on versait la semoule en pluie avec le fouet, le geste du poignet comme ça. Bon, des choses très simples, mais je me souviens, moi, j'étais tout petit à faire ça. Et c'est mon premier rapport à la cuisine et peut-être le rapport le plus éloigné au goût que j'ai. Alors, la matière est très particulière parce que c'est ni vraiment une crème, ni un bavarois, ni un gâteau vraiment solide. C'est figé d'une certaine manière, c'est comme une crème un peu figée, mais ça se mange à la cuillère. C'est beaucoup moins, je dirais, liquide qu'un yaourt. C'est quelque chose qui est quand même assez solide, mais en même temps qui fond immédiatement quand on le prend en bouche comme ça. C'est parce que c'est une espèce de crème qui est figée par le côté aggloméré un peu de la semoule. C'était servi dans une espèce de récipient, soit en pyrex ou quelque chose comme ça. En général, un plat rond tout le temps. Et puis voilà, ça a un goût un peu à chocolat lacté, quoi. Alors ça dépend un peu comment on dose le chocolat aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à noircir un peu plus que ce que je ne le faisais quand j'étais gamin.
Anne Caron, le café s'accommode très bien du chocolat, ça on le sait. Mais on sait moins quand même que le café peut être un très bon condiment. D'ailleurs, de plus en plus de chefs proposent des recettes de café. Et vous, dans votre livre Caféographie, vous parlez d'une association très accommodante entre le café, les poissons et les crustacés. En particulier le café coquille Saint-Jacques.
En fait, le café, quand on l'utilise comme condiment, s'accommode très bien avec les viandes blanches, les poissons et ce qui vient de la mer. En fait, partout où on ajouterait naturellement du citron, on peut essayer l'association avec du café. Sous différentes formes, ça peut être de l'expresso froid pour agrémenter les sauces, mais ça peut être tout simplement du café moulu sur les ingrédients.
Quelle est la meilleure façon de déguster le café ?
Je vous conseillerais ce qu'on vous a préparé, c'est l'association fromage-café.
Oui, parce que nous a rejoint autour de cette table, à notre grande surprise, Romain Ricciardi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Il se trouve que vous êtes fromager. Alors, je m'attendais effectivement à ce qu'Anne Caron, c'était une surprise, vienne par exemple avec du chocolat, pas du tout. Elle est venue avec un fromager et c'est vous qui êtes là avec trois fromages, Romain Ricciardi.
Oui, exactement.
Un comté, 24 mois.
Un comté, 24 mois. Donc en fait, précisément, c'est un comté qui a été fait en juillet 2018. C'est l'une des meilleures périodes pour le comté parce que c'est là que le lait est vraiment riche et qui donne toute sa complexité. Il va donner des arômes très intenses, une belle couleur. Hein, donc on est sur une couleur jaune qui est bien foncée. Et il va rester très fondant en bouche et c'est ça qui est important pour le comté.
Un Saint-Félicien ?
Alors, un Saint-Félicien, en effet, Saint-Félicien fermier. Donc là, on est sur une pâte molle. C'est un fromage qui va être là aussi assez riche, puisque c'est dans sa fabrication, il est enrichi à la crème. C'est un fromage qui va être assez doux, très onctueux. Et il aura un petit côté animal. En effet, on va sentir un petit peu
la vache. Bête.
Voilà, la bête. Mais ça reste quand même assez doux comme fromage.
Et un brebis pour terminer ?
Exactement. Et puis là, nous sommes partis sur un osso irati fermier qui nous vient du Béarn, au lait cru de brebis. Et c'est un fromage qui a en minimum entre 3 et 4 mois d'affinage. Et ça reste un fromage qui, là aussi, va être assez doux, un petit peu salé, mais qui va avoir un côté assez franc sur l'instant. Voilà.
Bon, et là, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel il faut manger les fromages et boire le café en même temps? Tout ça est quand même très codé, hein, de toute façon.
Exactement, tout ça est très codé. Donc, on va d'abord commencer par l'osso irati. Puis, nous continuons avec le Saint-Félicien. Et puis, nous terminons avec le comté.
Nous a rejoint également autour de la table une barista, Sophie Callier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez devant vous un certain nombre de cafetières dans lesquelles vous avez préparé du café que nous allons donc déguster avec le fromage. Anne Caron, tous les fromages peuvent-ils être associés à des cafés ?
Oui, il faut juste trouver la bonne combinaison, la bonne association, parce que chaque café va avoir une palette aromatique qui peut s'associer avec un fromage. Et après, il y a le mode de préparation. Là, on a pris parti de vous faire déguster le même café, le café Caron, forcément, mais préparé dans différentes cafetières. Donc, en fonction du mode de préparation, vous allez avoir des goûts différents. Et c'est déjà assez surprenant de voir qu'on a des goûts différents avec le même café et la préparation, le filtre. Alors, on a une infiltration Chemex, qui va être une filtration qui est très légère. On a un cold brew, qui est une infusion à froid. Et là, on a ce qu'on appelle la French Press ou la Bodum, pour ne pas citer le nom de la marque.
Servi, hein,
voilà, donc on entend l'eau qui coule. Et là, on est sur une cafetière à piston qui est assez classique, qui est remis au goût du jour. Donc ces trois infusions vont donner vraiment des goûts différents et qu'on va pouvoir associer du coup avec des fromages différents.
Vous commencez par le café, puis on mange le fromage ou l'inverse ? Ou les deux en même temps ?
Alors, j'aurais tendance à prendre le café en premier, moi, mais après plusieurs expériences, en fait, il faut mieux manger d'abord le fromage, puisque le corps gras va tapisser la bouche. Et après, du coup, les molécules aromatiques de café vont créer autre chose.
Confirmation de la part de Romain Ricciardi. D'abord le fromage.
Ouais, d'abord le fromage et ensuite le café. C'est vrai que le côté fromage, le côté gras du fromage qui va vraiment prendre le palais au début. Et puis derrière, on va avoir le café qui va arriver et qui va en fait faire la combinaison, changer la donne. Et c'est là que c'est vraiment intéressant.
Donc là, c'est une association entre l'osso irati et le French Press. Une certaine façon, Anne Caron, de... Merci pour la tasse de café.
Oui, la French Press ou la cafetière à piston, c'est une forme cylindrique et on laisse la mouture immergée dans l'eau et du coup, ça va donner un café qui va avoir beaucoup de corps. Donc assez dense avec beaucoup de corps.
Oui, donc vraiment, on marie aussi le café, la façon de faire le café avec tel ou tel fromage.
Tout à fait.
Après, l'accord tome de brebis café sera différent ou sera aussi bon, moins bon, selon les cafés.
Ça va être différent, en fait. Chaque association est différente parce que ce ne sont pas les mêmes molécules qui vont s'associer.
Bon, bah là, on va goûter.
Alors, donc, on va commencer par notre osso irati. On y va.
Moi, je vous suis. Hein. Ah, vous croquez dans le fromage.
Un petit peu, moi, j'aime bien le sentir, le fromage, d'abord, toujours.
Bon, on sent le fromage et on sent le café.
C'est un fromage qui est bien parfumé. C'est pas très agressif, au contraire. On aime bien et puis on va le goûter. Prends le palais. On est sur un fromage qui est un peu salé. Qui a une texture aussi. Hein.
Anne a déjà bu dans son café. Hein.
On va sentir les deux, en fait.
Texture un peu sableuse. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et on va... Donc, enchaîner avec notre café. Ce qu'on doit faire pour vraiment faire la combinaison des deux, c'est vraiment important d'inspirer par la bouche et d'expirer par le nez.
C'est ce qui fait ce petit bruit que nous avons entendu.
Mais en expirant par le nez, Nous avons en fait tous les arômes qui vont ressortir. Le nez, c'est l'outil, on va dire, le plus important pour faire des combinaisons et faire des accords. Et là, quand on fait ce qu'on appelle la rétro-olfaction, on a justement le café qui va faire ressortir les arômes de noisette qui viennent du fromage. Et on a vraiment ce côté noisette qui va être présent. Et après, le reste, le fromage va un peu disparaître et le café va prendre le dessus un petit peu quand même.
Quelque chose à ajouter, Anne Caron ?
C'est juste parfait.
Est-ce que ça vous plaît ?
Oui. J'ai pas bien senti la noisette, mais ça me plaît.
Alors là, Sophie est en train de nous préparer un café en Chemex. La Chemex, c'est une cafetière qui est déjà très belle parce qu'elle a une forme évasée. Elle est en verre et elle a cette anse en bois qui permet après de servir le café. C'est il y a un petit peu une cérémonie de préparer le café en Chemex, puisqu'on a ce filtre papier qui est de forme rectangulaire, qui est épais, donc qui va retenir les sédiments. Et la gestuelle est très importante. Donc le café infuse en à peu près 4 minutes, et on va avoir une infusion qui est très très légère, proche du thé.
Et je suppose que cette préparation de café plus légère va s'accommoder plutôt bien, Romain Riccardi, avec le Saint-Félicien.
En effet, le Saint-Félicien, cette fois. On est sur donc quelque chose qui va être beaucoup plus crémeux, beaucoup plus onctueux, qui va rester plus longtemps en bouche.
Qu'est-ce qui se dégage pour vous, là ?
C'est le café noisette, café crème. Mmh. On a vraiment ce... On a le côté riche donc, qui reste. En plus, c'est long en bouche. On n'est pas sur quelque chose qui est trop court. Mais ça reste. Mais c'est le café vraiment... café crème, quoi.
Cette association, elle fait ressortir les arômes, les saveurs des fromages, mais aussi du café. On apprécie différemment le café.
Tout à fait. C'est même très surprenant parce que naturellement, on n'aurait pas tendance à associer le fromage et café. Mais vous voyez que la combinaison des deux, ça donne une espèce de magie. Quand on associe deux goûts, ils peuvent s'annihiler, ils peuvent se détruire ou ils peuvent faire quelque chose, une dimension supplémentaire. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans la dimension supplémentaire.
On a vraiment une complémentarité entre les deux. Mmh. On passe au troisième avec le comté 24 mois. Associé au café cold préparé brew. Dans le cold brew.
C'est un café qui a été infusé avec de l'eau froide qui tombe goutte à goutte sur la mouture. Et c'est une infusion qui est très longue, qui peut durer minimum 6 heures. Mais dans certains cas, jusqu'à 12 heures, 24 heures. Ça n'a pas le goût d'un café froid. C'est un goût vraiment différent. C'est pas un café chaud qui aurait refroidi. C'est un autre goût.
Ah, notre comté 24 mois.
Ah oui, c'est très surprenant ce café.
Ah oui, c'est très populaire au Japon.
Alors c'est vrai qu'avec la combinaison des deux, ça donne en effet, ça fait ressortir le chocolat, quoi, qui est vraiment très sympa. Le comté, ça porte toujours sur des arômes de fruits secs, un peu de noix. Donc en fait, la connexion avec les deux fait justement qu'on a un côté cacao qui va ressortir, qui est très sympa.
Merci beaucoup Sophie Callier, barista, qui nous a préparé ces merveilleux cafés. Merci beaucoup Romain Riccardi.
Merci.
Pour ce fromage et cette dégustation des accords mets-fromage-café.
Ouais.
Et merci beaucoup Anne Caron d'être venue ce midi. Alors si on veut déguster les cafés de la Maison Caron, c'est à Paris, au 32 rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement. En attendant, je crois, l'ouverture d'un corner au BHV Marais. C'est au Havre aussi, dans la Maison des Cafés du Chaussois. C'est à Rouen, où vous avez racheté les cafés Jeanne d'Arc. Et c'est aussi dans un livre, puisqu'on peut déguster ces cafés en lisant Café Graphie chez Hachette. Un grand merci.
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 Avec ou sans café, les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur franceculture.fr. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, donc Baptiste Lénard, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman. À dimanche prochain.